إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma Bad. Chers frères, nous commencions hier ces assises alors que nous étions à l'approche du mois de Ramadan. Et voilà qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle assise alors que nous sommes déjà en sa moitié. Les 15 premiers jours du mois de Ramadan sont déjà passés à une grande vitesse. Et ceci nous encourage et nous incite à multiplier les efforts pour les 15 jours restants, bi'idhnillahi ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite dans cela. Ayyuhal ikhwa, sachez qu'il y a de nombreuses bienséances relatives au jeûne. Et le jeûne ne peut être complet sans la mise en pratique de celle-ci. Ces bienséances correspondent aux comportements par lesquels doit se parer le jeûneur et elles sont de deux sortes. Certaines sont obligatoires. C'est donc un devoir pour le jeûneur de les respecter et de s'y conformer. D'autres sont surérogatoires. Il convient donc au jeûneur de les observer et de ne pas les négliger. Nous allons donc voir dans cette assise, incha'Allah ta'ala, certaines de ces bienséances et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous leur mise en pratique. Parmi les bienséances obligatoires relatives au jeûne, le fait que le jeûneur accomplisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit comme adoration par les paroles et les actes. Et parmi les plus importantes, il y a la prière obligatoire qui représente le plus important pilier de l'islam après les deux attestations. Il est donc obligatoire pour le musulman de l'observer avec assiduité en l'accomplissant comme il se doit, c'est-à-dire en respectant ses piliers, en respectant ses obligations ainsi que ses conditions. Tu dois donc accomplir chaque prière en son temps. Et les hommes doivent accomplir ces prières en groupe dans les mosquées. Et ceci fait partie de la piété, celle pour laquelle le jeûne a été légiféré, comme on l'a vu dans une précédente assise. Une des sagesses du jeûne est que le serviteur atteigne la piété, atteigne la taqwa. Et le délaissement de la prière, il s'oppose certes à la piété, et c'est une cause du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ » Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Il y en a parmi les jeûneurs qui délaisse la prière en groupe malgré son obligation. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants la prière en groupe en temps de guerre et de peur. Alors que dire alors que tu es en toute sécurité et sérénité à ton domicile? D'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par un homme aveugle venu à lui et qui lui a dit « Ô messager d'Allah, je n'ai pas de guide pour me conduire à la mosquée. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dans un premier temps autorisé. Puis il l'a rappelé et lui a dit « Entends-tu l'appel ? Entends-tu l'appel à la prière ?» L'homme répondit oui, qu'il entendait l'appel à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors ordonné de répondre à l'appel à la prière, c'est-à-dire de venir accomplir la prière en groupe à la mosquée. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donc ordonné de venir accomplir la prière en groupe à la mosquée alors qu'il était aveugle et n'avait aucun guide pour le conduire. Ceci nous prouve l'importance de cet ordre auquel il nous incombe de nous soumettre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous pardonne nos manquements. Et on trouve dans l'authentique de Muslim la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Celui à qui il plaît de rencontrer Allah demain en tant que musulman alors qu'il soit assidu à ses prières. En effet, Allah a légiféré à votre prophète les voies de la guidée et elles font partie des voies de la guidée. » Et il a dit radiyallahu ta'ala anhu « Nul ne l'a délaissé. » C'est-à-dire la prière en groupe à leur époque, Nul ne l'a délaissé en dehors de l'hypocrite dont l'hypocrisie était connue. Et parmi les jeûneurs, il y en a qui vont encore plus loin dans la transgression et dorment au point de faire sortir la prière de son temps. Et ceci fait partie des plus grandes désobéissances et des pires négligences envers la prière. Et nombre de savants ont dit que quiconque retarde la prière de son temps, sans aucune excuse légitime, alors sa prière n'est pas acceptée, même s'il prie 100 fois, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre est rejetée. Et la prière après son temps fait bien sûr partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonnées. Elle est donc rejetée et n'est pas acceptée. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On compte aussi parmi les bienséances obligatoires durant le jeûne que le jeûneur s'écarte de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit parmi les paroles et les actes. Tu dois donc t'écarter, à titre d'exemple, du mensonge. Et le mensonge consiste à dire une chose qui est contraire à la réalité, même si ce n'est que pour plaisanter. Et le pire est bien sûr le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala et le mensonge sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de leur attribuer que telle chose est permise ou que telle chose est interdite, et ce sans aucune science. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib » et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, hada halalun wa hada haram, ceci est licite et cela est illicite, litaftaru ala Allah al-kadhib, pour forger le mensonge contre Allah, innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhib la yuflihun, certes ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas, mata'un qalil wa lahum adhabun alim, ce sera pour eux une piètre jouissance mais un douloureux châtiment les attend. Ceci concerne donc ceux qui mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les deux recueils authentiques, d'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque ment volontairement sur moi, qu'il prépare alors sa place en enfer. Ceci nous montre donc la gravité de prononcer des paroles sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sans aucune science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le mensonge de manière générale lorsqu'il a dit: prenez garde au mensonge, prenez garde au mensonge, car certes le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène en enfer. Et l'homme ne cessera de mentir et d'avoir recours au mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que grand menteur. Et le hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Et parmi les formes de mensonges courantes à notre époque, à laquelle nombre de personnes ne prêtent pas attention, il y a tous ces messages remplis de mensonges ou sans aucune source qui sont transmis via Internet, sur les réseaux sociaux ou par message sur les téléphones. Nombre de messages nous arrivent alors qu'ils n'ont aucune source et qu'ils ne sont souvent même pas fondés. Ceci fait partie du mensonge qui rentre dans l'interdiction mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie des mensonges qui mènent à la perversité, et le péché est encore plus grand si ces messages concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils contiennent des informations fausses sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc prendre garde à tout ce que nous transmettons via ces téléphones et ne pas prendre cela à la légère. Et vous avez écouté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quiconque ment volontairement sur moi, qu'il prépare alors sa place en enfer. Wal'iyadu billah. Tu dois aussi t'écarter de la médisance qui consiste à mentionner ton frère par une chose qu'il déteste en son absence, que ce soit au sujet de son apparence ou de son comportement, le dénigrant, le rabaissant ou autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la médisance dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala: « وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ » Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Non, vous en auriez horreur. Médire sur ton frère est donc pire et plus répugnant que de manger sa chair après sa mort. Et l'imam Abu Dawud, rahimahullah, rapporte d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lors de mon ascension, je suis passé à côté de gens qui avaient des ongles de cuivre avec lesquels ils se déchiraient les visages et les poitrines. J'ai alors dit: qui sont ceux-là, ô Jibril? Il me répondit: ceux-là sont ceux qui mangent les chairs des gens et portent atteinte grâce à leur honneur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous accorder le salut. Tu dois également t'écarter de la namima, que l'on pourrait traduire par le colportage. Cela consiste à rapporter à une personne la parole d'une autre sur elle dans le but de les désunir et de corrompre leur relation. Et ceci fait partie des grands péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le namam, le colporteur, n'entrera pas au paradis ». Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Il rapporte aussi, d'après Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes et a dit « Ces deux-là se font certes châtier, et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand ». C'est-à-dire quelque chose de grand aux yeux des gens, car les gens ne se rendent pas compte de la gravité de cela, et ils sont négligents alors que cela fait partie des grands péchés. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre eux ne se préservait pas de l'urine, et l'autre était un colporteur. Ceci est donc un grave péché, et le musulman doit s'en prémunir, car il en résulte la corruption des individus et de la société, ainsi que la division des musulmans et l'animosité entre eux, wallah al-musta'an. Et prends garde à ces individus qui viennent sans cesse à toi te rapporter ce qu'un tel et un tel dit sur toi, car comme on dit, celui qui colporte à toi, colporte aussi sur toi. Le musulman, il doit aussi s'écarter de la tromperie, et ce dans l'ensemble de ses transactions, ainsi que ses échanges et ses discussions. Car la tromperie fait aussi partie des grands péchés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est certes désavoué de son auteur, lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » Et dans une autre version, « Celui qui trompe n'est pas de moi. » Et ce, car la tromperie corrompt les relations entre les gens et leur fait perdre toute confiance entre eux. Et tout argent obtenu par tromperie et de l'argent sale qui n'apporte à son acquéreur que l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit aussi s'écarter de l'écoute de la musique, car cela est interdit dans notre noble religion. Et le péché est encore plus grave lorsque cette musique est accompagnée de chants appelant à la perversion et au péché. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Et parmi les hommes, il y en a qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Il est rapporté de manière authentique que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu fut interrogé au sujet de ce verset et qu'il répondit « Je jure par Allah, en dehors duquel nul ne mérite d'être adoré. Ceci concerne la musique. » Et ceci est également rapporté d'Ibn Abbas et d'Ibn Umar radiallahu ta'ala anhum et d'autres parmi les salafs rahimahum Allah ta'ala. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela lorsqu'il a dit « Il y aura des gens de ma communauté qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. Qui rendront licite, c'est-à-dire qui commettront ces péchés sans y prêter la moindre attention, comme si c'était des choses licites. » Et ceci s'est certes produit à notre époque. Nombre de musulmans commettent ces péchés comme s'ils étaient licites. Et ceci prouve que la ruse des ennemis de l'islam a réussi en éloignant les musulmans du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui leur est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Nombre de musulmans écoutent la musique bien plus qu'ils n'écoutent le Coran, bien plus qu'ils n'écoutent les hadiths ou encore les paroles des gens de science. Wallahu al-musta'an. Et on a déjà vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Et Jabir, radiallahu ta'ala anhu, a dit « Lorsque tu jeûnes, alors que jeûne ton ouïe, ta vue et ta langue, du mensonge et des interdits. » Le musulman, il doit donc préserver son ouïe, il doit préserver sa vue, ainsi que sa langue, de tous les interdits, et protéger son jeûne de tout ce qui pourra en diminuer la récompense, ou voire même l'annuler. Ceci concernait donc les bienséances obligatoires relatives aux jeûnes. Quant aux bienséances surérogatoires, nous allons en citer quelques-unes, incha'Allah ta'ala. On compte parmi les bienséances surérogatoires liées aux jeûnes le suhur, qui est le repas pris en fin de nuit, quelque temps avant l'aube. C'est donc une sunnah confirmé d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Prenez le suhoor car il y a en lui une bénédiction ». Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahum Allahu ta'ala. Et d'après Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas pris avant l'aube et le suhoor ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à manger des dattes lors de ce repas lorsqu'il a dit « Les dattes sont le meilleur suhoor du croyant ». Et ce repas peut se prendre avec peu ou beaucoup de nourriture, même si ce n'est qu'avec une gorgée d'eau, et ce afin de ne pas délaisser cette sunna. Certaines personnes n'aiment pas manger à ce moment-là et disent « j'ai déjà assez mangé » ou « je n'ai pas faim » ou « je n'arrive pas à manger au réveil ». Tu dois quand même, ne serait-ce que boire une gorgée d'eau ou manger une date, et ce afin de mettre en pratique cette sunna. Et lorsque le musulman prend ce repas, il lui convient de le faire en ayant l'intention de se soumettre à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour exemple, afin que ceci lui soit inscrit comme une adoration et non pas comme un simple repas, et il sera ainsi récompensé bi'idhnillahi ta'ala. Et la sunna est de retarder le suhoor, et ce d'après le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Nous avons pris le suhoor avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour aller accomplir la prière. On lui a alors demandé combien de temps séparait le suhoor de la prière. Il a répondu « Le temps de réciter une cinquantaine de versets. » On compte aussi parmi les bienséances surérogatoire lié au jeûne, le fait de s'empresser de rompre dès le coucher du soleil. D'après Sahl ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens ne cesseront d'aller bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. » Et la sunna est de rompre avec des dattes fraîches. Si tu n'en trouves pas, alors avec des dattes sèches. Et si tu n'en trouves pas, alors avec quelques gorgées d'eau. Et ce d'après le hadith d'Anas, radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors il buvait quelques petites gorgées d'eau. Et si tu n'as rien de cela, alors avec ce que tu as comme nourriture ou comme boisson. Et si tu ne trouves rien, alors tu mets simplement l'intention de rompre dans ton cœur. Et cela est suffisant, incha'Allah ta'ala. » Et méditez sur la parole de Anas, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier. Ceci nous prouve, premièrement, que la sunna est de rompre son jeûne avant de prier. Mais ceci nous prouve également que la sunna est de prier avant de manger. C'est-à-dire que le jeûneur, au moment de l'appel à la prière du Maghreb, lorsque le soleil s'est couché, il se contente de rompre son jeûne avec quelques dattes ou quelques gorgées d'eau, puis il se dirige vers la mosquée pour accomplir la prière en commun avec les musulmans. Parmi les bienséances surérogatoires liées au jeûne également, il y a l'invocation au moment de la rupture et pendant toute la journée, lorsque tu jeûnes. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les invocations de trois personnes ne sont pas rejetées. Et parmi eux, il a mentionné le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe. Et parmi les bienséances surérogatoires liées au jeûne également, le fait de multiplier les aumônes, de multiplier la récitation du Coran, l'offre de repas de rupture au jeûneur, ainsi que toute œuvre de bien. D'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux pendant Ramadan. Le musulman, il doit aussi faire des efforts pour la prière de nuit, surtout durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit à ce sujet, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son hizar, passait sa nuit en adoration et réveillait sa famille. Et ceci entre également dans la généralité de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui se verront les péchés pardonnés en ce mois de Ramadan. Enfin, parmi les bienséances surrogatoires liées au jeûne, le fait que tu te rendes compte de la valeur du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi qui t'a permis de jeûner en ce mois, car nombre de personnes ont été privées de ce bienfait. Certains sont morts avant l'arrivée de ce mois qu'ils espéraient jeûner. D'autres sont atteints de maladies et sont donc dans l'incapacité de jeûner malgré leur désir d'accomplir cette adoration. Et d'autres encore sont plongés dans l'égarement et l'insouciance. Ils se sont donc détournés de l'accomplissement de cette adoration immense et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur, il doit donc louer son Seigneur qui lui a accordé ce bienfait qui est une cause du pardon des péchés, de l'expiation des mauvaises actions et de l'élévation des degrés dans les jardins des délices, incha'Allah ta'ala. Chers frères, nous devons donc nous parer de ces nobles comportements et nous écarter des causes de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous le jeûne, ainsi que toutes les œuvres de bien qui mènent à son agrément durant ce mois béni. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver et de m'éloigner ainsi que vous de tout ce qui mène à sa colère et son châtiment. Il répond certes aux invocations de ses serviteurs. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi صحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.